Chapitre 18. Journal du docteur Seward. Quand je rentrais à 5 heures, non seulement Godalming et Morris étaient arrivés, mais déjà ils avaient pris connaissance des divers journaux et lettres que Harker et son étonnante femme avaient recopiés et classés. Harker, lui, n'était pas encore revenu. Il était allé chez les camionneurs dont le docteur Hennessy m'avait parlé dans sa lettre. Mrs. Harker nous offrit une tasse de thé, et je puis bien dire que pour la première fois depuis que je suis attaché comme médecin à cette maison, j'ai eu vraiment l'impression d'être chez moi. Lorsque nous eûmes pris le thé, Mrs. Harker s'adressa à moi. « Docteur Seward, puis-je vous demander une faveur? Je voudrais voir ce malade, Mr. Renfield. Vous en prie, laissez-moi aller le voir. Ce que vous dites de lui dans votre journal m'intéresse tellement. » Elle me regardait d'une façon si charmante, d'un air si suppliant aussi, qu'il m'était impossible de lui refuser cela, et du reste, je n'avais aucune raison de le faire. Je l'emmenai donc voir Renfield. Lorsque j'entrai dans sa chambre, je dis à mon patient qu'une dame désirait le voir, à quoi il répondit, en se contentant de demander « Pourquoi ?»« Cette dame visite l'établissement ?» expliquai-je, et elle voudrait s'entretenir un moment avec tous les pensionnaires l'un après l'autre. Très bien, alors qu'elle entre. Mais attendez un instant que je mette un peu d'ordre ici. Pour lui, mettre de l'ordre dans la chambre, c'était avaler toutes les mouches et toutes les araignées que contenaient ces nombreuses boîtes, et cela avant que j'eusse pu l'en empêcher. De toute évidence, il craignait que quelqu'un d'autre s'occupât de ces bestioles. De quelle façon ? Une fois terminée sa tâche répugnante, il dit sur un ton joyeux « Introduisez cette dame ». Et il s'assit sur le bord de son lit, la tête penchée, mais les yeux levés, en sorte qu'il pût voir entrer la visiteuse. Un instant, je craignis qu'il eût quelque dessein homicide. Je me rappelais qu'il paraissait parfaitement calme dans mon bureau le jour où, quelques minutes plus tard, cependant, il avait voulu se jeter sur moi. Aussi, eus-je soin de me tenir assez près de lui pour pouvoir le maîtriser tout de suite si jamais il tentait d'attaquer Mrs. Harker. Elle entra dans la chambre avec cette grâce, cette aisance qui, immanquablement, intimide les fous en forçant leur respect. Elle alla tout de suite à lui, souriante, et la main tendue. « Bonsoir, Monsieur Renfield, » lui dit-elle. « Vous voyez que je vous connais. Le docteur Seward m'a parlé de vous. » Il ne lui répondit pas immédiatement. Les sourcils froncés, il la regardait attentivement. Puis, peu à peu, il laissa paraître l'étonnement, puis le doute. Et alors, quelle ne fut pas ma surprise de l'entendre dire à Mrs. Harker, « Vous n'êtes pas la jeune fille que le docteur voulait épouser, n'est-ce pas ?»« Non, ce ne peut être vous, car celle-là, elle est morte. » Mrs. Harker eut à nouveau un doux sourire, tandis qu'elle lui répondait « Non, assurément, car moi j'ai un mari que j'ai épousé, alors que je n'avais encore jamais vu le docteur Seward et que lui-même ne m'avait jamais vu non plus. » « Dans ce cas, que faites-vous ici ?»« Mon mari et moi sommes venus en visite chez le docteur Seward. » « Ne restez pas chez lui. » « Mais pourquoi ?» Pensant que ce genre de conversation pourrait déplaire à Mrs. Harker encore plus qu'à moi-même, je jugeais bon d'intervenir. « Comment savez-vous que j'ai eu l'intention de me marier ?» demandai-je à Renfield. Il me répondit sur un ton de mépris, tandis que son regard allait de Mrs. Harker à moi pour se détourner aussitôt. « Quelle question stupide !»« Je ne suis pas du tout de cet avis, Monsieur Renfield, » dit Mrs. Harker, prenant immédiatement parti pour moi. Il eut pour lui répondre autant de courtoisie et de respect qu'il m'avait témoigné de mépris. « Vous comprendrez certainement, Mrs. Harker, que lorsqu'un homme est estimé, aimé comme l'est le docteur, tout ce qu'il concerne intéresse notre petite communauté. Non seulement ses amis aiment M. Seward, mais même ses malades, parmi lesquels certains, à cause d'un équilibre mental des plus précaires, peuvent dénaturer les causes et les effets. Depuis que je suis moi-même dans cet asile d'aliénés, je ne puis m'empêcher de remarquer que la tendance au sophisme chez certains de ces pensionnaires les incline à commettre les erreurs de non causae et ignoratio elenchi, les incline à se tromper par ignorance de la matière, sinon de la cause. D'étonnement, j'ouvris les yeux tout grands. voici que le malade dont je m'occupais le plus, celui qui caractérisait plus exactement qu'aucun des cas que j'avais jamais vus, l'affection dont il souffrait, se mettait à parler philosophie, et cela exactement comme l'eût fait un gentleman distingué. La présence de Mrs. Harker avait-elle fait vibrer quelques cordes de sa mémoire? Si ce réveil inattendu de ses facultés mentales était spontané, ou du moins provenait de l'influence inconsciente de la jeune femme, celle-ci devait certes posséder un don, un pouvoir peu ordinaire. Nous bavardâmes pendant quelques moments encore. Mrs. Harker, voyant que Renfield paraissait jouir de sa raison, tenta, non sans me lancer en commençant un regard interrogateur, de le faire parler de son sujet préféré. Décidément, il m'étonnait de plus en plus. Il le fit avec l'impartialité d'un homme en pleine possession de ses facultés mentales. Bien plus, il se prit lui-même en exemple quand il en vint à traiter de certaines choses. « Eh bien, vous voyez en moi un être fort étrange. Il n'est pas surprenant, croyez-moi, que les miens se soient inquiétés et m'aient fait mettre sous surveillance. Je me figurais que la vie est une entité positive, perpétuelle, et qu'en engloutissant une multitude d'êtres vivants, même s'ils se trouvent tout au bas de l'échelle de la création, on peut prolonger indéfiniment la vie. Et il m'est arrivé d'y croire à tel point que, dans l'un de ces moments-là, j'ai réellement voulu supprimer un homme. Le docteur vous dira comme moi que j'ai essayé un jour de le tuer, dans l'intention d'augmenter mes forces vitales en m'assimilant sa vie par le moyen de son sang, me souvenant naturellement des paroles de l'Écriture, car le sang est la vie. Encore que, en vérité, le vendeur d'un certain remède ait vulgarisé ce truisme au point de le rendre digne de mépris. Pas vrai, docteur ? J'acquiesçai d'un signe de tête, trop stupéfait pour trouver à dire, ou même à penser quoi que ce fût. Se pouvait-il que 5 minutes seulement auparavant, j'eusse vu cet homme manger ses mouches et ses araignées ? Je consultai ma montre. Il me fallait aller chercher Van Helsing à la gare. J'avertis donc Mrs. Harker qu'il était temps de nous retirer. Elle se leva aussitôt pour me suivre, mais auparavant, elle dit gaiement à M. Renfield « Au revoir, et j'espère que je vous verrai souvent, dans des circonstances plus favorables. » À quoi il répondit, pour mon étonnement final, « Au revoir, ma chère, ou plutôt, Dieu fasse que je ne revoie jamais plus votre charmant visage, qu'il vous bénisse et vous protège. » Je partis donc pour aller chercher Van Helsing à la gare, laissant chez moi le pauvre Hart, l'air un peu plus joyeux pourtant qu'il ne l'avait eu depuis le début de la maladie de Lucie, et Quincy, ayant de son côté repris son entrain. Van Helsing sauta du wagon avec l'agilité d'un jeune homme. Tout de suite, il me vit, et se précipitant vers moi, il me dit « Ah, John, mon ami, comment allez-vous ? Bien ? Parfait. Pour moi, j'ai beaucoup travaillé avec l'intention de rester ici un certain temps si cela est nécessaire, et j'ai beaucoup de choses à vous apprendre. Madame Mina est chez vous ? Oui ? Et son admirable mari ? Et Arthur ? Et mon ami Quincy ? Ils sont tous chez vous aussi ? Parfait. » En chemin, je lui racontai tout ce qui s'était passé depuis son départ et comment mon propre journal sur la suggestion de Mrs. Harker avait servi maintenant à quelque chose. « Ah, l'étonnante Madame Mina ! Elle a véritablement le cerveau d'un homme qui serait extraordinairement doué, mais un cœur de femme. Croyez-moi, Dieu avait une intention particulière quand il l'a façonnée. Mon cher John, jusqu'à présent, la chance a voulu que cette femme nous aide. Seulement, passée cette soirée, elle ne devra plus être mêlée à cette horrible histoire. Elle court un trop grand risque. Nous nous sommes décidés, n'est-ce pas ? Nous nous le sommes promis l'un à l'autre, à détruire ce monstre, mais ce n'est pas le rôle d'une femme. Même s'il ne lui arrivait effectivement aucun malheur, le cœur pourrait lui manquer devant tant et tant d'horreurs, et elle pourrait continuer à en souffrir d'une façon ou de l'autre, qu'il s'agisse d'un trouble nerveux ou que ses nuits désormais soient peuplées d'horribles cauchemars. Et de plus, elle est jeune et mariée depuis peu. Elle aura peut-être bientôt, si ce n'est pas déjà maintenant, d'autres sujets de préoccupation. Vous me dites qu'elle a tout transcrit à la machine, donc. Elle va vraisemblablement nous entretenir de cette affaire. Mais dès demain, fini, elle ne s'en occupera plus. C'est sans elle que nous poursuivrons. Je l'approuvai entièrement et l'informai alors de ce dont nous étions aperçus pendant son absence. La maison achetée par Dracula était celle-là même qui se trouvait à côté du parc de notre établissement. Von Helsing montra un réel étonnement et parut en même temps fort soucieux. « Oh, que ne l'avons-nous pas su plus tôt ? » s'écria-t-il. « Nous l'aurions pris à temps et nous aurions sauvé la pauvre Lucie. Enfin, à chose accomplie, point de remède, n'y pensons plus, mais essayons d'atteindre notre but. » Il se tut, et ce silence dura jusqu'à ce que nous fussions arrivés. Avant de monter nous habiller pour le dîner, il dit à Mrs. Harker, « Mon ami John me dit, Madame Mina, que vous et votre mari aviez recopié et classé les documents qui concernent tout ce que nous savons de Dracula jusqu'à ce moment. » « Non, pas jusqu'à ce moment, professeur, précisa-t-elle, mais jusqu'à ce matin, oui. » « Quelle est la différence ? Toute la lumière possible a été jetée sur les événements, même sur ceux qui, d'apparence, étaient les moins importants. Nous nous sommes dit l'un à l'autre tout ce que nous savions, n'est-il pas vrai ? » Mrs. Harker rougit et tirant une feuille de papier de sa poche. « Docteur Van Helsing, lui demanda-t-elle, voulez-vous bien lire ceci et me dire si je dois continuer ? Ce sont des notes que j'ai prises aujourd'hui. Il m'a également paru utile de consigner désormais tout ce qui se passe jusqu'au moindre détail, mais ici, il y a peu de choses qui ne soient pas personnelles. Dois-je continuer ? » Après avoir lu attentivement ce texte, le professeur le lui rendit en disant « Ceci n'ira pas rejoindre les autres documents si vous ne le désirez pas. Pour ma part, cependant, j'y tiendrai beaucoup. Votre mari ne vous en aimerait que davantage, et l'estime que nous tous, vos amis, avons pour vous n'en serait que plus grande. Notre estime, et aussi notre amitié. » En reprenant le papier, elle rougit à nouveau, mais elle eut en même temps un large sourire. Ainsi donc, et jusqu'à cette heure même, nos notes sont complètes et entièrement mises en ordre. Le professeur en emporta un exemplaire afin de l'étudier après le dîner, en attendant notre réunion fixée pour 8 heures. Comme chacun de nous a déjà lu le tout, une fois réunis dans mon bureau et au courant des moindres faits, nous serons à même d'élaborer notre plan de campagne contre notre terrible et mystérieux ennemi.
Journal de Mina Harker, 30 septembre. 2 heures après le dîner, qui avait eu lieu à 6 heures, nous nous retrouvâmes dans le bureau du docteur Seward, sans que nous nous fussions concertés. Notre réunion ressemblait fort à celle d'un conseil ou d'un comité. Le professeur Van Helsing prit place au haut bout de la table, ainsi que l'en pria le docteur Seward dès qu'il le vit entrer dans la pièce. Il me fit asseoir à sa droite et me demanda de servir de secrétaire à notre groupe. Jonathan s'assit près de moi. En face de nous s'installèrent Lord Godalming, le docteur Seward et Mr. Morris. Lord Godalming étant à côté du professeur et le docteur Seward à côté de Lord Godalming. Le professeur Van Helsing prit la parole. « Si je ne me trompe, dit-il, nous sommes tous au courant des faits relatés dans ses lettres et journaux personnels. » Nous l'en assurâmes et il reprit. « Cela étant, je crois utile de vous dire à quel genre d'ennemi nous avons affaire. Je vais vous expliquer certains points de l'histoire de cet homme dont je suis maintenant absolument sûr. Ensuite, nous examinerons ensemble quelle peut être la meilleure façon d'agir et nous prendrons nos mesures en conséquence. Sans aucun doute, les vampires existent. Certains d'entre nous en ont la preuve. Et même si nous n'avions pas fait nous-mêmes cette malheureuse expérience, l'histoire du passé fournit des preuves suffisantes de leur existence. Je reconnais qu'au début j'étais sceptique. Si depuis de très nombreuses années je ne m'étais pas efforcé de garder pour toute chose une grande ouverture d'esprit, je n'aurais rien cru de toute cette histoire jusqu'au moment où le tonnerre lui-même m'aurait crié à l'oreille « Vois !» Je t'oblige à voir. Je te mets une preuve irréfutable sous les yeux. Hélas, si j'avais su dès le début ce que je sais maintenant, ou plutôt, si j'avais ne fût-ce que deviné à qui nous avions affaire, cette vie si précieuse de notre chère Lucie aurait été sauvée. Mais Nous l'avons perdue, et maintenant tous nos efforts doivent tendre à sauver d'autres pauvres âmes. Il faut savoir que ce Nosferatu ne meurt pas comme l'abeille une fois qu'il a fait une victime. Au contraire, il n'en devient que plus fort. Et plus fort, il n'en est que plus dangereux. Le vampire qui se trouve parmi nous possède à lui seul la force de 20 hommes. Il est plus rusé qu'aucun mortel, puisque son astuce s'est affinée au cours des siècles. Il se sert de la nécromancie, art qui, comme l'indique l'étymologie du mot, consiste à évoquer les morts pour deviner l'avenir. Et tous les morts dont il peut approcher sont à ses ordres. C'est une brute, et pis qu'une brute, c'est un démon sans pitié, et il n'a pas de cœur. Il peut, avec pourtant certaines réserves, apparaître où et quand il veut, et sous l'une ou l'autre forme de son choix. Il a même le pouvoir, dans une certaine mesure, de se rendre maître des éléments, la tempête, le brouillard, le tonnerre, et de se faire obéir de créatures inférieures, telles que le rat, le hibou, la chauve-souris, la phalène, le renard et le loup. Il peut se faire grand ou se rapetisser, et à certains moments, il disparaît, exactement comme s'il n'existait plus. Dans ces conditions, comment devons-nous nous y prendre pour le détruire? Comment le trouverons-nous et, l'ayant trouvé, comment le ferons-nous périr? Mes amis, l'entreprise est aussi ardue que terrible, et à songer aux conséquences qu'elle peut avoir, l'homme le plus courageux frémirait. Car si nous échouons dans la lutte, alors son triomphe à lui est certain. Et qu'adviendrait-il dans ce cas? Pour moi, ce n'est pas de perdre la vie qui me fait peur, mais notre échec signifierait tout autre chose qu'une question de vie ou de mort. Nous deviendrions semblables à lui, des créatures de la nuit comme lui, sans cœur ni conscience, faisant notre proie des corps et des âmes de ceux que nous aimons le plus au monde. Les portes du ciel seraient à jamais fermées pour nous, car qui nous les ouvrirait? Tous nous abomineraient à jamais. Nous serions une tache sur le soleil de Dieu, une flèche dans le flanc de celui qui est mort pour sauver l'humanité. Pourtant, notre devoir est là, tout tracé. Pouvons-nous reculer? En ce qui me concerne, je dis non. Mais je suis vieux, et la vie, avec son soleil resplendissant, ses jardins enchantés, sa musique et l'amour, est bien loin derrière moi. Vous, mes amis, vous êtes jeunes. Certains d'entre vous ont déjà connu le chagrin, mais même ceux-là peuvent encore, assurément, attendre de beaux jours. Que décidez-vous? Tout en l'écoutant parler, Jonathan avait pris ma main. Au moment où j'avais vu mon mari tendre la main vers moi, j'avais tremblé de crainte que l'effroyable danger dont nous entretenait le professeur ne le décourageât complètement. Mais il me sembla revivre quand je sentis sur la mienne cette main si forte, si sûre d'elle-même, si décidée. Assurément, la main d'un homme courageux a son langage propre. Il n'y a pas qu'une femme amoureuse pour entendre ce qu'elle dit. Lorsque le professeur se tut, nous nous regardâmes dans les yeux, mon mari et moi. Toute parole entre nous était inutile. « Je réponds pour Mina et pour moi-même, » dit Jonathan. « Comptez sur moi, professeur, » fit Mr. Morris.
« Je suis avec vous, » répondit de son côté Lord Godalming, « et je serai avec vous en souvenir de Lucy, même si je n'avais pas un autre motif pour vous aider. »
Quant au docteur Seward, il se contenta de faire un signe de tête affirmatif. nous nous serrâmes tous la main. Notre pacte solennel était conclu. J'avoue que mon cœur se glaçait. Pas un instant toutefois l'idée ne me vint que je pourrais renoncer à l'entreprise. Nous reprîmes chacun notre place et le docteur Van Helsing poursuivit son explication avec un certain entrain qui montrait bien que le travail sérieux venait enfin de commencer.
Bon, vous savez à présent contre quoi nous luttons. Mais de notre côté, nous ne sommes point dépourvus de force. Nous avons l'avantage du nombre. Puisque le vampire est toujours seul et que nous sommes plusieurs, nous avons les renseignements que nous donnent les livres, nous sommes libres d'agir et de penser, et pour ce qui est de l'action, toutes les heures du jour et de la nuit nous appartiennent. En réalité, donc, ces forces dont nous bénéficions, nous sommes parfaitement libres de les employer comme nous l'entendons. Nous sommes tout dévoués à une cause. Et le but que nous nous proposons d'atteindre n'est pas d'en retirer un profit personnel, mais un profit qui s'étendra à toute l'humanité. Maintenant, considérons les limitations du vampire en général et de celui-ci en particulier. Il faut pour cela nous référer aux traditions et aux superstitions. Celles-ci, à vrai dire, ne nous apprennent pas grand-chose quand il s'agit de vie et de mort. Or, les questions en jeu sont bien plus essentielles que la vie ou la mort. Et pourtant, il faudra nous en contenter. D'abord parce que nous y sommes bien obligés. Ensuite, parce que, après tout, la tradition et la superstition ne laissent pas d'être importantes. N'est-ce pas à cause d'elles, bien que, hélas, il n'en ait pas été de même pour nous, que la plupart des hommes croient aux vampires? Il y a un an d'ici, lequel d'entre nous aurait admis ce que nous savons maintenant? En ce 19e siècle sceptique, positiviste, où l'esprit scientifique est tout-puissant. Nous avons repoussé une croyance, et plus tard nous avons eu sous les yeux la preuve qu'elle n'était pas insensée. Soyez certains que le vampire, et c'est cela qui explique cette croyance que certains hommes ont toujours eue, et de ses pouvoirs et de ses limitations, a donné à d'autres qu'à nous des preuves de sa réalité. Car, sans doute possible, on l'a connu partout où il y a eu des hommes. Il s'est manifesté partout, dans l'ancienne Grèce, dans l'ancienne Rome, en Allemagne, en France, en Inde, même dans les presqu'îles de Chersonèse. En Chine, pays éloigné de nous à tout point de vue, il existe encore aujourd'hui et les gens le craignent. Il a suivi les hordes venues d'Islande, les Huns, les Slaves, les Saxons, les Magyars. Nous savons donc ce que nous devons savoir. Nous possédons tous les éléments nécessaires pour agir. Et laissez-moi vous le dire, un grand nombre de croyances à son sujet se sont vérifiées au cours de notre si malheureuse expérience. Le vampire vit sans que le temps qui passe l'amène peu à peu à la mort. Il prospère aussi longtemps qu'il peut se nourrir du sang des vivants. Nous avons pu constater qu'il rajeunit, qu'il devient plus fort et qu'il semble se refaire quand il trouve en suffisance sa nourriture préférée. Mais il lui faut ce régime. Il ne se nourrit pas comme les autres hommes. Notre ami Jonathan, qui a habité chez lui pendant des semaines entières, ne l'a jamais vu prendre un repas, jamais. Et son corps ne projette aucune ombre. Son image ne se réfléchit pas dans un miroir, cela aussi Jonathan l'a remarqué. D'autre part, il dispose d'une force extraordinaire, comme Jonathan de nouveau l'a constaté quand le comte a refermé la porte sur les loups et quand il a aidé notre ami à descendre de voiture. Il peut se changer en loup, ainsi qu'on l'a vu à l'arrivée du bateau à Whitby quand il a attaqué et déchiqueté un chien. Ou en chauve-souris, et c'est ainsi que Madame Mina l'a aperçu. Sur l'appui de fenêtre à Whitby, et que notre ami John l'a vu s'envoler de cette maison voisine. Et c'est ainsi encore que notre ami Quincy l'a vu se poser sur la fenêtre de Miss Lucy. Il peut s'approcher, entouré d'un brouillard que lui-même suscite. L'aventure effroyable de ce courageux capitaine resté à son gouvernail le prouve, mais nous savons aussi qu'à limiter l'espace
sur lequel s'étend ce brouillard qui ne fait précisément que l'entourer, le protéger. Le vampire apparaît en grains de poussière sur les rayons d'un clair de lune, et c'est comme cela que Jonathan a aperçu ces trois femmes dans le château de Dracula. Il peut se faire si petit et si mince que, souvenez-vous, Miss Lucy, avant de connaître la paix éternelle, s'est glissée par une fente de la largeur d'un cheveu qui existait dans la porte de son tombeau. Car il lui est donné, une fois qu'il a trouvé son chemin, de sortir de n'importe quoi, d'entrer dans n'importe quoi et de voir dans l'obscurité, ce qui n'est pas un pouvoir négligeable dans un monde à demi privé de lumière. Mais ici, suivez-moi bien. Il est capable de tout cela, oui, et pourtant, il n'est pas libre. Il est prisonnier, plus qu'un homme condamné aux galères, plus qu'un fou enfermé dans son cabanon. Aller là où il en aurait envie lui est interdit. Lui qui n'est pas un être selon la nature, il doit cependant obéir à certaines de ses lois. Pourquoi ? Nous n'en savons rien. Toutes les portes ne lui sont pas ouvertes. Il faut au préalable qu'on l'ait prié d'entrer. Alors seulement, il peut venir quand il le désire. Son pouvoir cesse, comme d'ailleurs celui de toutes les puissances malignes, dès les premières lueurs de l'aube. Il jouit d'une certaine liberté, mais en des moments précis. S'il ne se trouve pas à l'endroit où il voudrait être, il ne peut s'y rendre qu'à midi, ou au lever, ou au coucher du soleil. Tout cela, la tradition et les livres nous l'apprennent, et nous en trouvons aussi la preuve dans les documents que nous-mêmes avons rassemblés. Ainsi, tandis que le vampire peut parfois accomplir sa propre volonté, pourvu qu'il respecte les limitations qui lui sont imposées et se confine dans son domaine, son cercueil à lui, son enfer à lui, ou encore dans un endroit non béni, comme par exemple cette tombe du suicidé dans le cimetière de Whitby. Et encore ne peut-il se déplacer qu'à des moments bien précis. On dit aussi qu'il ne peut franchir des eaux vives qu'à marée haute ou lorsque la mer est étale. Et puis, il y a des choses qui lui ôtent tout pouvoir, comme l'ail, nous le savons assez. Comme ce symbole, ma petite croix d'or, devant laquelle il recule avec respect et s'enfuit. Il y en a encore d'autres, et il vous faut les connaître, au cas où nous devrions nous en servir au cours de nos recherches. Une branche de rosier sauvage, posée sur son cercueil, l'empêche d'en sortir. Une balle bénite que l'on tirerait de son cercueil le tuerait. Et il deviendrait alors un mort véritable. Quant au pieu que l'on enfonce dans son cœur, nous savons qu'il lui donne également le repos éternel. Repos éternel qu'il connaît de même si on lui coupe la tête. Nous l'avons constaté de nos propres yeux. Ainsi donc, en ce qui concerne le comte Dracula, quand nous trouverons la demeure de cet homme, nous pourrons le forcer à rester dans son cercueil ou nous le détruirons. Mais il est rusé, ne l'oublions pas, et très intelligent aussi. J'ai demandé à mon ami Arminius de l'université de Budapest de me communiquer l'histoire de sa vie et il m'a mis au courant de tout ce qu'il connaissait. Ce doit être ce même voïvode, Dracula, qui fonda sa renommée en traversant le grand fleuve et en allant battre le Turc à la frontière même de la Turquie. S'il en est ainsi, il ne s'agit pas d'un homme ordinaire, car à l'époque, et pendant les siècles qui suivirent, on parla de lui comme du fils le plus habile et le plus audacieux, mais aussi le plus courageux du pays par-delà la forêt. Cette intelligence supérieure et cette volonté inébranlable, il les garda jusque dans la tombe, et il s'en sert maintenant contre nous. Les Dracula, dit Arminius, appartenaient à une illustre et noble race, encore que certains d'entre eux, au cours des générations successives, s'il faut en croire les contemporains, aient eu des rapports avec le malin. Ils se mirent à son école et apprirent ses secrets à Skolomance, dans les montagnes qui dominent le lac d'Hermannstadt, où le diable revendique un disciple sur 10 comme sa propriété. Les documents emploient les termes de Stregoïka, sorcière, Orduk, Et Pokol, Satan, enfer. Et l'un des manuscrits parle de notre Dracula comme d'un vampire, vocable que tous ici, nous ne comprenons que trop bien. C'est de sa propre semence, de lui seul, que sont nés tant de grands hommes et de femmes illustres, et leur tombeau sanctifie cette terre qui est la seule dans laquelle le monstre se trouve chez lui. Car, parmi les caractéristiques qui le rendent si effrayant, la moindre n'est pas qu'il soit profondément enraciné dans tout ce qui est bon. Il ne pourrait perdurer dans un terrain vierge de mémoire sacrée. Depuis un bon moment déjà, Mr. Morris ne cessait pas de regarder par la fenêtre. Finalement, il se leva sans donner aucune explication et sortit de la pièce. Le professeur s'était tu un moment, bientôt il reprit. Et maintenant, nous devons décider ce que nous allons faire. Nous disposons de beaucoup de données, et c'est à partir de là qu'il nous faut établir notre plan. Nous savons, d'après l'enquête qu'a menée Jonathan, que 50 caisses de terre sont venues du château de Dracula à Whitby, et que toutes ont été envoyées à Carfax. Mais nous savons également que l'on est venu ensuite en rechercher au moins quelques-unes. À mon avis, il nous faut en premier lieu nous assurer si toutes les autres sont bien restées dans cette maison ou si on en a encore enlevé. Dans ce cas, nous rechercherons... Il fut interrompu d'une façon assez surprenante. Nous entendîmes au dehors un coup de pistolet. Une balle fit voler en éclats une vitre de la fenêtre, puis, faisant ricochet du haut de l'embrasure, vint frapper le mur du fond de la pièce. Sans doute suis-je pusillanime, car je criai de peur. D'un bond, les hommes se levèrent tous en même temps. Lord Godalming se précipita à la fenêtre, qu'il ouvrit aussitôt. Nous entendîmes alors la voix de Mr. Morris. « Mille excuses ! Je vous ai effrayé, n'est-ce pas ? Je rentre, vous raconter ce qui s'est passé !» Un instant plus tard, il était de nouveau dans le bureau. Oh, « C'est idiot de ma part, » dit-il, « et je vous prie très sincèrement de me pardonner, Mrs. Harker. Je crois que je vous ai fait terriblement peur. Mais voici, pendant que le professeur parlait, une grosse chauve-souris est venue se poser sur le rebord de la fenêtre. Depuis les événements récents, j'ai une telle horreur de ces sales bêtes que je ne peux plus en voir une sans vouloir la tuer. Cela m'est arrivé je ne sais combien de fois. » Déjà, depuis plusieurs soirs. Et vous vous moquiez de moi, n'est-ce pas, Art ?
L'avez-vous touché ? Demanda le docteur Van Helsing.
Je ne crois pas, car elle a continué à voler en direction du bois. Sans un mot de plus, il se rassit et le professeur acheva ce qu'il avait à dire.
Nous rechercherons chacune de ces caisses. Et quand nous saurons où elle se trouve, ou bien nous nous emparerons de ce monstre, ou bien nous le tuerons dans un de ses repères. Ou encore, nous rendrons inefficace la terre contenue dans les caisses afin qu'il n'y soit plus en sûreté. Ainsi, nous le prendrons sous sa forme humaine entre l'heure de midi et le coucher du soleil. Nous engagerons la lutte avec lui au moment où il est le plus faible. En ce qui nous concerne, Madame Mina, à partir de ce soir, vous ne vous occuperez plus de rien jusqu'à ce que tout soit fini. Vous nous êtes trop précieuse pour vous exposer à de si grands dangers. Une fois que nous nous serons séparés ce soir, vous ne vous poserez plus aucune question. Nous vous raconterons tout en temps opportun. Nous sommes, nous, des hommes, capable de supporter les plus dures épreuves. Mais vous, vous serez notre étoile et notre espoir, et nous agirons avec d'autant plus de liberté que nous saurons que vous êtes à l'abri de tout danger. » Tous, et même Jonathan, parurent soulagés d'une grande inquiétude.
Cependant, je ne trouvais pas souhaitable qu'il se lance sans moi dans cette aventure, car plus nombreux, nous eussions aussi été d'autant plus forts. Mais leur résolution était prise et je n'avais qu'à m'incliner, à accepter le chevaleresque souci qu'ils prenaient de ma sécurité. Mr. Morris intervint alors.
« Comme il n'y a pas de temps à perdre, dit-il, je propose que nous allions tout de suite voir ce qui se passe dans cette maison. Quand on a affaire à ce monstre, chaque minute est importante. En agissant rapidement, peut-être l'empêcherons-nous de faire une victime de plus. »
Je l'avoue, je sentis mon courage m'abandonner au moment où je compris qu'ils allaient se mettre à l'œuvre sur le champ. Mais je n'en laissais rien paraître, de crainte que, s'ils s'apercevaient jamais que mes terreurs pouvaient devenir une entrave à leur entreprise, ils ne me permettent même plus désormais d'assister à leurs discussions. Ils sont maintenant allés à Carfax, emportant tout ce qui leur est nécessaire pour entrer dans la maison. Cela ressemble bien aux hommes. Ils m'ont dit d'aller me coucher et de dormir, comme si une femme pouvait dormir quand ceux qu'elle aime sont en danger. Mais je me mettrai au lit et ferai semblant de dormir, pour que Jonathan, quand il rentrera, n'éprouve pas de nouvelles inquiétudes à mon sujet.